Il est 8h. Bon réveil pour ceux qui se lèvent maintenant parce que c'est le week-end. Et belle matinée pour ceux qui travaillent et également ceux qui viennent de se lever.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Et Thierry Nicolas, ça fait un petit moment qu'il est debout pour le flash. Bonjour Thierry.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. La piscine intérieure du Palladium à Champéry doit fermer ses portes pour une durée minimale de 3 à 4 mois. Des travaux de sécurisation de la charpente du toit devront être effectués à la suite d'un audit technique effectué il y a quelques jours. Les rapports d'expertise de trois entreprises spécialisées dans le domaine ont confirmé la nécessité de ces réparations pour assurer la sécurité des visiteurs. Nécessaire mais dommageable, selon Jean-Philippe Borgeot, conseiller municipal champérolin chargé des bâtiments communaux.
On va s'en relever parce que c'est la période un peu automnale, donc c'est pas la période la plus intense. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait quand même que pour la clientèle touristique, parce que c'est pas que les écoles ou les clients du Palladium qui utilisent la piscine, mais c'est toute une région, c'est toutes les résidences secondaires, donc on va tout mettre en œuvre pour être prêt pour les fêtes de fin d'année, quoi.
À noter que les autorités espèrent que le bassin pourra rouvrir d'ici Noël. Le reggae va résonner dans la station des Crozets dans le Val d'Illier ce week-end. La première édition du Crozestival accueillera plusieurs artistes romands, dont le chablaisien Timan Faya, pour cet événement qui se veut ouvert au grand public. Restauration et animation pour les familles permettront également aux visiteurs de célébrer cette première édition du Crozestival, une manifestation dédiée à la musique reggae mais aussi au partage. Steve Gluck, patron de l'hôtel des Portes du Soleil et organisateur du festival.
Il y aura aussi des animations pour les enfants, ça sera le dimanche. Et puis c'est clair que les gens de 60 ans aiment bien ça, puis les jeunes aussi, donc c'est passe partout. Les gens ont besoin de sortir, en profiter, vivre un petit peu, parce que les nouvelles sont pas très bonnes. On sort du Covid, on a la guerre, après qu'est-ce qu'on aura? Donc on sent un peu du souci, quoi. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin de sortir, puis de s'évader.
Steve Gluck au micro de Xavier Borgeot. Le secteur du photovoltaïque connaît une explosion de la demande depuis l'annonce de la hausse des prix de l'électricité. Plusieurs entreprises ont annoncé avoir 15 fois plus d'appels de clients que lors d'une période dite normale. Les temps d'attente pour une installation sont ainsi très élevés et pour diverses raisons. Jean-Michel Fry, co-directeur d'Evosun, entreprise photovoltaïque située à Massonger.
C'est sûr qu'on a plusieurs problèmes. Donc d'un côté de la main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait être peut-être 30 ou 40 dans la société. À l'heure actuelle, on est 12. Mais malheureusement, je ne trouve pas les compétences. Donc afin de soigner la qualité, on va échelonner dans le temps vraiment les projets. Puis au niveau matériel, c'est sûr que je ne peux pas. C'est pour moi vraiment impossible de commander deux ou trois fois plus de matériel. Donc à l'heure actuelle, on est vraiment complet jusqu'au mois d'août l'année prochaine en 2023. Donc il faudra patienter.
Selon l'association professionnelle Swiss Solar, il existe un déficit de 500 à 600 travailleurs dans le secteur du photovoltaïque. Vol complet au départ de la Russie et file d'attente aux frontières terrestres. L'annonce de mobilisation partielle de Vladimir Poutine mercredi pour aller combattre en Ukraine semble déplaire à un grand nombre de citoyens. Le groupe socialiste au Parlement a déposé une question au Conseil fédéral pour savoir si une protection des déserteurs russes est prévue, notamment à travers une demande d'asile dans une ambassade. Écoutez la conseillère nationale vaudoise Brigitte Crotta.
Alors, il est vrai que certaines personnes sont déjà en train de quitter la Russie, mais tous n'arriveront pas effectivement à quitter le pays. Et pour certains, de déposer une demande d'asile dans une ambassade serait vraiment une solution qui n'existe certes plus pour la Suisse depuis 2012 ou 2013, mais que l'on demande justement de réintroduire temporairement et à court terme pour cette situation vraiment très particulière.
À des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejat Toulami, le Conseil fédéral répondra lundi à la question des socialistes. Pour mémoire, une pétition de plus de 6400 signatures avait été déposée à la chancellerie fédérale en mai. Elle demandait déjà d'accorder l'asile aux déserteurs russes. À l'étranger, le président américain Joe Biden a assuré que les États-Unis et leurs alliés allaient infliger de nouvelles sanctions économiques rapides et sévères à la Russie si elle annexe des territoires ukrainiens. Moscou a en effet commencé hier à faire voter dans le cadre de ses référendums d'annexion des régions ukrainiennes qu'elle contrôle entièrement ou en partie. Les votes s'achèveront le 27 septembre dans les régions séparatistes de Donetsk et Lugansk et dans des zones sous occupation russe dans les régions de Kherson et Zaporijia. Sans aller jusqu'à dénoncer les scrutins, la Chine, partenaire le plus proche de Moscou, y est tout de même allée de sa critique, appelant au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. En tennis, la carrière de Roger Federer a officiellement pris fin ce matin à Londres à 1h25. Ce 1750e match, simple et double confondu, le premier depuis le 7 juillet 2021, fut évidemment l'un des plus riches en émotions pour Federer et toutes les personnes qui sont restées réveillées pour faire leurs adieux à cette légende du sport suisse et mondial. À l'issue de sa dernière partie, Roger Federer est revenu sur son ultime soirée dans la peau d'un tennisman professionnel.
Je voulais plus essayer de prendre plaisir et faire un match correct parce que j'avais aussi beaucoup d'espoir que ça allait se dérouler d'une façon correcte. J'avais quand même peur que j'allais pas être à la hauteur des autres et c'est pour ça après les premiers jeux j'ai réalisé si je peux en sorte jouer avec. Alors ça m'a calmé les nerfs forcément, mais pour moi c'était surtout ce qui compte, c'était le après. C'était encore beaucoup mieux ce que j'ai imaginé. Je trouve que j'ai pu vivre toutes mes émotions parce que pendant le match j'étais concentré, c'était sympa, c'était super cool avec Rafa et l'équipe et tout le monde ici à Londres, mais après à la fin je suis content que j'ai pu vivre ce que j'ai pu vivre et pas tout seul quelque part dans un coin d'une chambre, mais en fait sur un terrain devant des milliers de personnes. Pas tout le monde a cette énorme chance.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Londres, Hélène Scott-Smith. Pour la petite histoire, le duo composé d'Hubalois et de Raphaël Nadal s'est incliné hier soir 4-6, 7-6, 11-9 devant Jack Sock et Frances Tiafoe. Et on termine avec du hockey sur glace. Alors que le leader Bienne a facilement maté Langnau 6-1, Fribourg a été battu 5-2 par Zoug lors de la quatrième journée de National League disputée hier soir. Genève a écarté Lugano 5-2, tandis qu'Ajoie s'est incliné 5-4 après prolongation contre Ambry. Davos, de son côté, n'a pas fait de détails et le baptême de l'altitude s'est mal passé pour Kloten. Les Grisons ont écrasé les Aviateurs 7-0. Et enfin, dans le dernier match, Berne a pris le meilleur sur Rapperswil 3-2 avec un doublé de l'inévitable Chris Di Domenico.
Merci beaucoup Thierry, on vous retrouve tout à l'heure à 9h.